La première partie de ma prédication au mois d'avril, c'était l'histoire d'Abraham à Moïse. La deuxième partie, c'était de Josué à la royauté, avec la division du grand royaume d'Israël en royaume du nord et en royaume du sud. En raison de la désobéissance des différents rois et du peuple, ainsi que du refus de revenir à Dieu, les deux royaumes seront détruits et le peuple sera exilé en Babylonie. Toutefois, la fidélité de Dieu sera encore au rendez-vous de l'histoire, et cela passera par la période justement du prophétisme jusqu'à la venue du Messie, comme nous allons le voir ce matin. Si nous reprenons le fil conducteur chronologique de l'histoire d'Israël, il faut se rappeler qu'après 722, après que le royaume du Nord fut détruit, donc Israël, l'usage naquit d'appeler le peuple hébreu comme juif. Donc au début, c'était les Hébreux, donc au temps de Moïse, comme ça, et ensuite, c'est le nouveau nom qui leur a été destiné, ces Juifs, pour indiquer la provenance de ces personnes de la Judée. À ce moment, on peut être juif de deux manières, soit habitant de Judée, soit étant de la communauté des exilés en Babylonie. En 539, Cyrus le Perse s'empare de Babylone et va traiter les Juifs avec une très grande bienveillance. Il va favoriser le retour des Juifs en 537, et la construction du temple sera un des buts, justement, de ces Juifs qui sont exilés. Un an après, donc très rapidement, on posait déjà la première pierre, et les prophètes comme Agée et Zacharie encouragèrent la construction du temple, et c'est sous la houlette de Zorobabel que le temple sera à nouveau inauguré en 515. Ensuite, vous connaissez l'histoire, deux Juifs venus de Perse, Esdras et Néhémie, s'attachèrent aussi à combler les brèches de la muraille de Jérusalem. Dès ce moment-là, vont s'établir les bases du judaïsme de Judée qui vont persister jusqu'au temps des évangiles, jusqu'au temps de Jésus, c'est-à-dire la pureté ethnique, la régularité au culte du temple, le respect de la loi et également l'observance des fêtes, dont le sabbat. Je voudrais qu'on puisse reprendre très rapidement juste quelques points historiques qui me semblent être importants. On va voir la première diapo. Donc, vous rappelez le royaume du nord en vert, le royaume du sud, donc Juda, au sud. Donc ça, c'est tout le territoire d'Israël. Ensuite, il y a eu la division avec les deux rois qui se sont révoltés et qui se sont séparés. On peut mettre la prochaine diapo. Donc ça, c'était à peu près en 933 avec les deux premiers rois de Juda et d'Israël. Ensuite, vous avez... Ah, si tu peux juste revenir... Donc, ce qui me semblait aussi important, c'est que quand on lit les prophètes, il y a des prophètes qui ont prophétisé pour le royaume du sud et il y a des prophètes qui ont prophétisé pour le royaume du nord. Donc, pour le royaume du nord, c'était Amos et Osée à ce moment-là, et en Juda, c'était Esaïe et Michée, c'était en parallèle. Ensuite, en 722, comme on l'a entendu, la fin du royaume du nord et la première déportation. Ensuite, la deuxième dia, en 600, on a Jérémie et Habakkuk. Et la destruction du temple, bon, certains historiens disent 587, le plus souvent c'est 586, l'étape très importante, la première destruction du temple et les Juifs qui sont déportés en Babylonie. Ensuite, on a l'édit de Cyrus, c'est en 538, le retour des Juifs et la construction du deuxième temple, 515. Et en parallèle, donc, c'est Agée et Zacharie qui sont les prophètes qui seront présents. Ensuite, la restauration des remparts. Ça, c'est en 445 par Néhémie et Malachie. Et la dernière diapo qui montre que, ensuite, en 332, c'est la période grecque où c'est Alexandre le Grand qui baptise ce territoire comme la Palestine. Et juste pour vous rappeler un événement historique, c'est que le temple a été aussi profané à multiples reprises, dont par un des empereurs Anticus IV qui dédie le temple de Jérusalem à Zeus. Et ça, c'est en 167 avant Jésus-Christ, où il y a la révolte, ce qu'on appelle des Maccabées. Donc, si on regarde à la période des prophètes, les prophètes d'Israël ont une très longue histoire qui commence, on peut le dire, à partir de Moïse, pour terminer avec la construction du deuxième temple, c'est-à-dire Agée et Malachie. Donc, l'histoire des prophètes couvre 8 siècles, donc c'est énorme. La loi de Moïse constitue la matière première de l'Ancien Testament, mais ce sont les prophètes d'Israël qui l'ont vraiment poli et qui l'ont façonné. Cette évolution montre le caractère central de la morale et de l'éthique au détriment des valeurs purement rituelles que l'on retrouve dans le Pentateuque. Donc ça aussi, c'est la révélation progressive de Dieu. D'abord les 10 commandements, d'abord des choses très figées, et ensuite il y a l'éthique et la morale. Le prophète, qui est tiré du mot en hébreu nabi, qui veut dire porte-parole de Dieu. Il a donc un rôle moral, spirituel, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il a aussi un rôle politique. Et ces trois choses sont vraiment liées ensemble. Le rôle moral, spirituel et politique. Pour le prophète, l'histoire reste toujours ouverte. Aucune prédiction n'est irréversible. C'est le péché d'Israël qui provoque son malheur et non la destinée. À tout moment, la repentance du peuple pourrait changer le cours de l'histoire. Les prophètes ont dénoncé en gros trois choses importantes. La première, c'est l'hypocrisie religieuse ou l'oubli du vrai Dieu. Ça, c'est une chose qui revient régulièrement, ce que Jésus a repris d'ailleurs. Ensuite, il y a aussi la conduite sexuelle, l'impureté sexuelle aussi est quelque chose qui est dénoncé par les prophètes. Et un troisième point qu'on oublie souvent, je pense dans nos milieux évangéliques, c'est les injustices sociales, comme nous l'avait rappelé aussi Sylvain Dupertuis lors d'une de ses prédications. Les injustices sociales sont quelque chose aussi en abomination par rapport à Dieu. Et une de ces facettes de cette hypocrisie religieuse sera l'attachement superstitieux au temple, qui sera très régulièrement dénoncé par les prophètes. Relisez les prophètes et vous verrez que cet attachement superstitieux du peuple, mais surtout des chefs religieux, est quelque chose qui est dénoncé très régulièrement. Donc ils ont dénoncé la transformation du monothéisme en monolâtrie, de la loi en fétichisme. Le peuple et ses dirigeants avaient oublié l'éthique et la justice sociale pour concentrer uniquement sur le rituel. Et ça, c'est quelque chose que Jésus a repris de manière régulière. S'en prendre au culte du temple, c'était profaner malgré tout l'institution fondamentale de la religion d'Israël et le symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il fallait beaucoup, beaucoup de courage pour ces prophètes pour dénoncer cela. Il faut bien se représenter, comme on l'avait vu, le temple de Jérusalem, c'était vraiment l'endroit où il y avait la présence même de Dieu. Et ces prophètes ont attaqué cela. Évidemment, ils n'ont pas attaqué le temple en tant que tel, mais de la relation des hommes qu'ils avaient établie avec ce lieu. Et l'idée de la destruction du temple apparaissait profondément blasphématoire, et aussi le défaitisme des prophètes qui disaient, voilà, le temple sera détruit, il y aura des exilés, on sera déportés, c'était vu comme une grande trahison. Ainsi, une grande partie de l'Ancien Testament est composée de livres des prophètes qui ont une portée à la fois spirituelle, mais aussi une portée politique. Les deux axes sont étroitement liés et on ne peut pas les séparer. Durant ces différentes périodes de désobéissance du peuple, les prophètes annoncent de mauvaises nouvelles en raison du péché du peuple, mais annoncent et toujours de bonnes nouvelles. Il y a toujours une porte de sortie et ça, la raison, c'est l'amour immense de l'Éternel. Et deux de ces bonnes nouvelles qui seront constamment dans les propos des prophètes seront le premier, le retour en terre promise du peuple juif, et deuxièmement, l'annonce du Messie. Ces deux thèses extrêmement importantes que les prophètes ont remis en avant, et c'était malheureusement un centre de contentieux historique et théologique entre les juifs et les chrétiens pendant plus de 2000 ans. Si on s'arrête sur la première des phases de ces annonces des prophètes, c'est la terre d'Israël. Pour les juifs, le retour en terre d'Israël était prophétisé autant en 586, lors de la première destruction du temple, qu'en l'an 70, avec la deuxième destruction du temple et la déportation, comme on la connaît, aux quatre coins du monde. Cette annonce sera une des grandes espérances du peuple juif, de la diaspora, et était basée évidemment, pas sur des suppositions ou une espérance, mais sur des écrits prophétiques qui furent réalisés donc en 538 avant Jésus-Christ, par le retour des juifs de Babylonie, mais aussi en 1948. Il y a là un télescopage des prophéties bibliques de l'Ancien Testament qui fait que des fois ça donne un petit peu le vertige et le tournis. C'est des prophéties qui se sont étendues sur 2500 ans, qui s'entremêlent entre les différentes déportations et les différents retours. Et on peut dire que les Juifs ont eu raison de cette persévérance. Et malheureusement, que la majorité des églises se sont trompées. Peu de chrétiens dans l'histoire de l'Église ont cru en cette dernière prophétie. Et ça, il faut qu'on soit conscient de cela. Ils pensaient qu'après la destruction, la déportation en l'an 70, c'était une chose acquise et terminée. Il y a eu plusieurs déportations, 722 par le Royaume du Nord, 586 par la destruction du Sud et en 70 par Jérusalem. Et de toute évidence, la question s'est posée aux prophètes et ensuite aux pères de l'Église. Est-ce que l'alliance entre Israël et Dieu est-elle définitivement rompue ou pas ? Si elle est définitivement rompue, ça veut dire que Israël rentre dans le domaine public de toutes les autres nations. Je pense que l'accomplissement de cette prophétie par le retour en 1948 donne raison, me semble-t-il, que l'alliance entre Israël et Dieu n'a jamais été rompue. Comme d'ailleurs toutes les alliances qu'il fait avec les hommes. L'été passé, donc, nous sommes allés en Israël et dans le musée de l'indépendance à Tel Aviv, on peut lire gravé sur le mur les écrits du prophète Amos qui a vécu 750 ans avant Jésus-Christ. Et on peut lire dans le chapitre 9, on peut voir la diapositive. C'est écrit en hébreu, pour ceux qui savent lire, ou en anglais en dessous, mais je vais traduire. Dans le chapitre 9, « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Je les planterai sur leur terre. Ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. » Moi, ça m'a touché quand j'ai lu ce verset. Rappelez-vous que cette prophétie a été écrite 750 ans avant Jésus-Christ, alors que le royaume du Nord n'avait même pas été détruit. Il n'y avait même pas de déportation, que des prophètes parlent du retour. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Nous, on le lit parce qu'on connaît l'histoire. Mais quand ça a été prophétisé, ça a été prophétisé avant que les choses s'accomplissent, et donc pendant plus de 3000 ans. Je voudrais faire une parenthèse et bien dire que je sais qu'aborder le sujet de la terre d'Israël et de l'État d'Israël est un point très contesté, très complexe et d'une grande tension émotionnelle aussi dans nos églises. Et personnellement, je veux blesser évidemment personne. Je n'ai aucune prétention de détenir la vérité sur ce sujet. Je suis ni juif, ni arabe. Je suis ni théologien, ni historien. Mais simplement, je voudrais vous partager ce matin quelque chose qui m'habite, comme une réflexion théologique. D'autre part, si j'en mentionne ce point, c'est que je ne veux pas du tout faire l'apologie du grand Israël. Ce n'est pas pour soutenir non plus le gouvernement actuel d'Israël. Je ne veux pas non plus rejeter les Arabes ou maintenir les Palestiniens sans une terre à eux. Bien au contraire. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des Juifs israéliens qui travaillent pour une solution à double État au conflit israélo-palestinien. Comme certains vous connaissez peut-être, un écrivain journaliste connu israélien qui s'appelle Amos Oz, que je pense qu'il a un courage extraordinaire pour dire ce qu'il dit. Finalement, pour nous chrétiens, nous savons que Christ est là pour réconcilier les hommes avec Dieu, mais aussi entre nous. Le salut est offert en Jésus pour les païens, mais pour les musulmans, pour les juifs, à l'humanité entière. Quelle que soit notre religion au départ, quelle que soit notre ethnie, et quelle que soit la couleur de notre peau. Et quel que soit le moyen, le seul moyen, c'est de passer par Jésus-Christ, qu'on soit fils d'Abraham ou qu'on ne le soit pas. Jésus est le seul chemin. Et je voudrais dire que prier pour Israël, c'est aussi prier pour les Palestiniens et pour les pays arabes voisins. Les enfants d'Israël et les enfants palestiniens sont élevés dans le rejet, voire la haine du peuple voisin. Et pour nous, chrétiens, il est hors de question de rentrer là-dedans. Nous rejetons catégoriquement toute forme de haine, toute forme de rejet, de racisme ou d'injustice. Mais si je m'aventure sur ce sujet délicat, c'est parce que je pense qu'il est malgré tout important de parler de ce sujet. Il est important de parler de l'avenir d'Israël sur le plan spirituel et aussi de nos relations, nous en tant que chrétiens, avec les juifs. Tout simplement parce que la Bible en parle et d'ailleurs je pense qu'elle nous met en garde sur ce sujet. Denise va nous lire deux textes dans Romains 1 et Romains 11, que je vous proposerai d'écouter.
Romains 1, le verset 16. En effet, c'est Paul donc qui parle, « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Et puis Romains 11, les versets 11 à 12 et 17 à 24. « Je demande donc, Serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leurs faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, donc nous, tu as été greffé parmi les branches restantes et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aide la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi, si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier.
Quand je lis ce texte, je me dis comment est-ce que dans l'histoire de l'Église, ce texte a été mis de côté. Il n'y avait pas seulement des écailles sur les yeux du peuple juif, mais aussi sur les chrétiens. Israël et les Juifs sont de la plus grande importance en ce qui concerne notre héritage chrétien. Tous les responsables chrétiens, il faut se rappeler, de l'Église primitive étaient juifs. Il est facile pour nous, qui sommes non-juifs, d'oublier que nous avons été greffés. Dieu avait un plan pour les païens qui deviennent co-héritiers ensemble avec les Juifs, leur donnant la possibilité de recevoir toutes les bénédictions du Messie d'Israël. À l'époque de l'Ancien Testament, si on voulait connaître le vrai Dieu, il fallait devenir juif. Il n'y avait pas d'autre moyen. Mais on voit que dès la Genèse, Dieu avait un plan qui s'est réalisé en Jésus-Christ. En Jésus, Dieu a greffé les païens croyants à son alliance pour qu'ils reçoivent ses bénédictions. Et c'est vrai que je ne comprends pas comment des Juifs peuvent-ils lire les premiers textes de la Genèse avec Abraham, où on voit que où Dieu promet une bénédiction pour toutes les nations, et pas seulement pour leur nation, c'était pour toutes les nations. La branche sauvage de l'olivier représente l'Église des chrétiens, issue du monde païen. En tant que branche sauvage greffée, chaque bénédiction dont nous jouissons provient du fait que nous avons été greffés à une racine commune, qu'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette rupture entre judaïsme et christianisme, quand on regarde l'histoire de l'Église, elle a été surtout activée par l'empereur Constantin au IVe siècle après Jésus-Christ, quand le christianisme est devenu religion d'État, religion officielle de l'Empire romain. Il faut se rappeler que pendant les premiers siècles, les quatre premiers siècles, il existait peu de conflits relationnels entre les chrétiens et les juifs. C'était essentiellement un conflit théologique. C'est vrai qu'il y a eu des altercations, mais ce n'avait rien à comparer à ce qui s'est passé après Constantin. Après Constantin, donc, il s'est converti, et au début, les chrétiens, ils ont pensé que c'était leur planche de salut. Constantin se convertit, l'arrêt de la persécution, et évidemment, beaucoup de chrétiens ont été très soulagés de cela, et on peut bien les comprendre. Mais malheureusement, Constantin en a fait une religion d'État avec beaucoup d'effets, je dirais, secondaires. Dans les effets secondaires, c'était entre autres le rejet de racines juives avec remplacement des traditions chrétiennes basées sur des rites totalement païens. Je pense ici à différentes fêtes religieuses. Et également, pour nous, évangéliques, c'était le début aussi des églises de multitude ou des églises de l'État, qui mettent un terme aux églises professantes et confessantes que nous-mêmes, en tant qu'évangéliques, nous réclamons de la réforme radicale par les différents courants de réveil. Les chrétiens, à ce moment-là, s'approprient aussi les écritures juives en les rebaptisant Ancien Testament et en mettant un terme à la plupart des coutumes juives. Bien sûr, Constantin a fait des choses bonnes et des choses certainement moins bonnes. Et comme une petite parenthèse aussi, dans les choses intéressantes à savoir, c'est qu'au début, les pères de l'Église ne voulaient pas que la croix soit le symbole des chrétiens, parce que c'était un symbole de torture, exactement. Et Constantin, quand il s'est converti, il a eu une vision et il a vu la croix de Jésus, et c'est à partir de ce moment-là que la croix est devenue le symbole des chrétiens jusqu'à présent. Mais ce renversement de situation s'est produit en l'espace de quelques générations après la résurrection de Jésus. L'alliance acceptée par les peuples païens et rejetée par le peuple juif. À de très rares exceptions près, les juifs renoncèrent à le suivre et l'Église devint essentiellement païenne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est clair que Jésus n'a pas satisfait aux critères de Messie selon la pensée juive de l'époque. Mais il y a également eu l'Église qui a interprété la destruction définitive du Temple de Jérusalem comme la rupture entre l'alliance entre Dieu et Israël, et ainsi, ça n'a pas donné envie aux Juifs de se convertir. Ce changement théologique, on appelle ça la théologie du remplacement, qui ne tient pas compte de l'élection durable de Dieu sur le peuple d'Israël, et qui stipule que l'Église a remplacé Israël, que l'Église est Israël. Et ça, ce sera la position de l'Église catholique, mais aussi de Calvin, et de la majorité des Églises officielles. Mais avec la réforme radicale, peu à peu les choses vont changer, mais je dirais surtout au courant du XXe siècle. À savoir que l'Église est aussi Israël en ce qui concerne les promesses de l'Ancien Testament. C'est pour ça que quand on lit les promesses de l'Ancien Testament, on peut s'approprier en tant qu'Église ces belles promesses. Quand Dieu dit qu'il aime son peuple, qu'il aime Israël, qu'il aime l'humanité entière. L'Église se greffe au même tronc qu'Israël pour recevoir les bénédictions de ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Jésus de Nazareth. Ainsi, les Juifs ont été blâmés pour la mort de Jésus au 1er siècle. Mais cela s'est nettement accentué au 4e siècle, et ces rejets s'est poursuivi siècle après siècle. Cependant, c'est à partir des années 60 où il y a eu un grand changement et un réveil parmi les Juifs, avec beaucoup de conversions, avec ce mouvement qu'on appelle les Juifs messianiques. Comme disait l'apôtre Paul, il y avait un voile sur les yeux des Juifs, mais qui commence à tomber. Et depuis les années 60, selon certains experts et sociologues, il y a plus de Juifs qui ont reconnu Jésus comme leur Messie, depuis les années 60 à maintenant, que les Juifs qui se sont tournés auprès du Christ entre 70 et le 20e siècle. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et personnellement, je pense que c'est parmi des signes du temps, des temps qui étaient prévus et prophétisés dans Romains 11 qu'on vient de lire. Mais il faut bien savoir que ces mêmes Juifs messianiques, même maintenant, sont toujours la cible de certains chrétiens. Je voudrais vous lire simplement un témoignage d'un petit recueil qu'on trouve, donc Juif pour Jésus, qui donne le témoignage de Juifs messianiques qui prêchent la parole dans les rues en Hongrie, je crois que c'est à Budapest. Je n'ai jamais vu auparavant autant d'animosité ouverte à l'encontre des Juifs, parce que donc ces personnes, ils ont un t-shirt où c'est écrit Juif pour Jésus, perceptible sur le visage des gens. Un certain nombre de Hongrois exprimaient ouvertement leur haine des Juifs et venaient vers les équipiers nous accusant d'avoir tué Jésus. Un autre homme d'âge moyen est venu droit vers moi et réalisant que je ne parlais pas hongrois s'est planté devant moi et répétait sans cesse en anglais « Je hais les Juifs, je hais les Juifs ». « Les Juifs sont tous des Judas ». Ma réponse fut « Jésus et les apôtres étaient Juifs ». Mais cela fut totalement inutile. J'ai également entendu cette phrase que je trouvais que résumait un petit peu la pensée de ces derniers siècles dans l'histoire de l'Église, c'est que Jésus est né juif, mais qu'il est mort chrétien. Je trouve que c'est une phrase qui veut dire beaucoup de choses. Je voudrais terminer par le plus important, Jésus le Messie. Pour les nations païennes du 1er siècle, l'annonce du Messie par les prophètes de l'Ancien Testament prend tout son sens dans la personne de Jésus de Nazareth, contrairement aux Juifs de son époque qui voient en lui vraiment un imposteur et non le Messie promis. Sur ce point essentiel, les nations non-juives ont vu tout juste. Jésus est bien le Messie et malheureusement les Juifs se sont trompés. L'ancienne alliance réservée au peuple juif s'ouvre par la nouvelle alliance en Jésus-Christ à l'humanité entière. Reprenons le cours de l'histoire. Donc la Judée sera donc gouvernée par les Perses, ensuite les Grecs et les Romains dès l'année 63 avant Jésus-Christ. Et c'est durant la période romaine que Jésus-Christ vivra. Je vous propose encore juste trois petits diapositives par rapport à cette période romaine, où on voit que donc en 63 avant Jésus-Christ, c'est Pompéi, général romain, qui prend Jérusalem. Ensuite, il y a Hérode le Grand, qui est aussi un empereur romain, qui règne en Palestine de 37 à 4 avant Jésus-Christ. Et c'est Hérode qui va rénover le deuxième temple de manière très somptueuse. Il y en a certains qui disent que c'est le troisième temple parce qu'il a été rénové. Ensuite, juste pour avoir des points de repère, on dit que la naissance de Jésus-Christ, ce n'était pas en zéro, mais c'était plutôt 6 ou 7 avant sa naissance, entre guillemets. La mort de Jésus, à peu près dans les années 30. L'épître aux Thessaloniciens, alors je l'ai mis, donc c'est à peu près entre 50 et 52. Ensuite, il y a eu l'épître aux Romains. Et puis, l'évangile de Marc aurait été écrit à peu près entre 65 et 70. Donc, c'est intéressant de savoir que c'était la tradition orale qui était extrêmement fidèle et extrêmement importante, parce que le premier texte qu'on a écrit, probablement, c'était les épîtres de Paul, avant même les évangiles. Et c'est intéressant de lire que quand il parle de la Sainte Cène, il avait déjà la tradition orale et il n'avait pas les textes des évangiles comme nous on peut l'avoir. Et j'ai mis Marc, parce qu'évidemment c'était un point important pour notre Église, avec Marc l'expérience. Probablement c'était le premier évangile qui a été écrit, et ensuite Matthieu, Luc et Jean ont été écrits par la suite. Et la dernière diapositive, donc 70 après Jésus-Christ, la destruction du temple par Titus avec la diaspora juive, les évangiles qui ont été écrits par la suite, probablement l'Apocalypse de Jean est écrit en 95 aussi, et puis la fondation de l'État d'Israël en 1948. Durant cette période romaine, il y aura la constitution de différentes sectes juives que vous connaissez, donc les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et les zélotes. Le point commun de ces quatre sectes sur l'observance de la loi et l'attente du Messie qui allait libérer le peuple juif de l'occupation romaine. Donc il faut bien se mettre en tête que quand Jésus arrive, les Juifs attendent le Messie, mais pour les délivrer des Romains. Ce sera sous Hérode que la Judée va totalement être soumise à l'Empire romain et sera séparée de la Galilée par ce qu'on appelle le corridor samaritain. Dès lors, il n'y aura plus d'État juif. Hérode, il était à demi-juif par un de ses parents, je ne me rappelle plus si c'est le père ou la mère, mais c'était un personnage tout à fait haut en couleur. Sur le plan du personnage, le personnage, il a été détesté, il était paranoïaque, il a tué beaucoup de personnes parce qu'il avait tellement peur qu'on le tue, qu'il a même tué des personnes proches de sa famille. Mais sur le plan souverain, apparemment, il a réussi à faire en sorte de pouvoir gouverner en paix avec les nations voisines. Et une des choses qui est restée, c'est qu'il a rénové le temple de Jérusalem, il l'a agrandi, il l'a fait de manière très somptueuse, il était un petit peu le nouveau Salomon. Le temple fut transformé par justement cette fameuse esplanade, nous avons encore comme vestige le mur des lamentations, ce qu'on appelle le mur des lamentations, le mur occidental. On va voir encore quelques diapositives justement de ce temple, comment était le temple au temps de Jésus. Donc vous rappelez que le temple de Salomon, c'était juste le bâtiment en jaune foncé. Et ensuite, Hérode a rajouté des cours, il a rajouté différentes parties que je ne connais pas du tout. Mais bon, ils ont chacun leur signification. On peut mettre la diapositive suivante. Voilà, donc vous avez juste le temple. Autour, il y a des endroits très importants aussi où il y avait donc la cour du temple. Donc quand Jésus est avec la femme samaritaine ou parle ou enseigne, il était certainement dans la partie centrale, mais aussi peut-être à l'extérieur. Et autour, il y a donc l'esplanade du temple. La prochaine diapo. Donc ça, c'est une maquette, évidemment, qu'on trouve au musée d'Israël, à Jérusalem, où on voit le temple au centre et le cadre autour. Une autre diapo pour vous montrer comment était... Donc là, vous avez Jérusalem, et on voit l'importance du temple et de l'esplanade. Donc évidemment, la partie religieuse prend toute la place au sens propre et figuré au temps de Jésus. Et j'ai mis juste une dernière diapositive pour vous rendre compte, ça c'est maintenant. Donc on voit un petit peu la forme de l'esplanade malgré tout. Donc derrière, il y a le mur occidental, et là, vous voyez que ce n'est plus le temple de Salomon, puisque c'est une mosquée. C'est la mosquée, exactement. Enfant, je ne connaissais aucun juif. Dans mon quartier, au Grand Nancy, je ne connaissais pas de juif. C'est venu plus tard, avec mes études de médecine, que je fis la connaissance d'un jeune homme juif, et je l'ai reconnu parce qu'il avait sa kippa. Il avait toujours sa kippa, même pendant les cours. Je savais, en tant qu'enfant, que les juifs étaient concernés par la Seconde Guerre mondiale et par la Shoah et l'Holocauste. Mais j'ai pris conscience de l'importance de cela quand j'avais 17 ans, lors d'un voyage d'études. Nous sommes allés à Munich et nous avons visité le camp de concentration de Dachau. Et j'en suis sorti totalement bouleversé, ainsi que mes camarades. Mais de toute évidence, je pensais à l'époque que ces juifs que je voyais, les juifs qui étaient dans ces camps de concentration, n'avaient rien à voir avec mon Jésus de l'école du dimanche et de mon éducation religieuse. C'est avec ma formation en pédiatrie que j'ai eu de véritables amis juifs à Genève et que je me suis intéressé à l'histoire du judaïsme en tant que tel. Puis il y a eu aussi des discussions avec des amis chrétiens sensibles sur ce concept, et finalement l'été passé avec notre voyage en Israël qui m'a fait découvrir, m'a rappelé une chose évidente de la continuité entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et ce qu'on peut vivre au 21e siècle. Et ce qui me frappe maintenant en lisant le Nouveau Testament, c'est la judaïté pratiquante de Jésus dans les évangiles, qui est présente dès les premiers versets de l'évangile de Matthieu. C'est vrai que depuis, je ne peux plus lire le Nouveau Testament de la même façon, parce que c'est dans cette culture juive que Jésus grandit, puisqu'il était lui-même juif. Qui est Jésus? Comment était Jésus? Tout le monde s'accorde pour dire que c'est le personnage qui a bouleversé l'humanité, c'est donc ce rabbin juif palestinien qui s'appelait Jésus, qui changea le cours de l'humanité au point que le calendrier était bouleversé, parce qu'on parle maintenant d'avant et d'après Jésus. Son nom, c'était un nom commun à l'époque, puisque c'est un nom qui est dérivé de Josué, qui voulait dire « l'Éternel est salut ». Ce qui est croustillant et fort heureux, c'est que pour le personnage le plus connu au monde, on n'a aucune description physique de comment il était Jésus. On ne sait pas comment il était. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas du tout comme il était représenté dans ma Bible illustrée quand j'étais enfant. Il était très grand, je ne sais pas si c'était très grand, habillé en blanc, blond, avec une très belle barbe bien coupée. Sûr qu'il n'était pas comme ça. Jésus est né juif, vécu comme juif et mort comme le roi des juifs. Il grandit dans une culture juive et fut élevé comme un enfant juif. Pour le présenter, Matthieu entame son évangile par une liste plutôt ennuyeuse, on doit l'avouer, au premier abord, de 42 générations juives et débute, et ça c'est très intéressant, généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Je voudrais simplement qu'on puisse essayer d'imaginer Jésus, adolescent au XXIe siècle. Je pense qu'il faudrait l'imaginer avec sa kippa, avec ses phylactères autour de son bras, donc c'était pour prier, et son talit, c'est-à-dire un châle de prière sur son dos, avec la Torah à sa main droite et peut-être un iPhone sur sa main gauche. On va voir juste une diapositive. Voilà. Probablement que si Jésus naissait dans le peuple juif actuellement, il serait comme ça. Nous pouvons davantage comprendre Jésus dépouillé de sa judaïté que Gandhi, privé de son identité indienne. Ça paraît évident qu'on ne peut pas translater Gandhi à Stockholm. Donc Jésus aussi, il était du Moyen-Orient. Et je pense qu'une des grandes erreurs dans l'histoire de l'Église est d'avoir transformé l'image de Jésus en un Jésus occidental, issu du monde païen sans aucune relation avec le judaïsme, d'avoir pensé qu'il était né juif mais mort chrétien et d'avoir été tué uniquement par les juifs, d'avoir cru que la colère de Dieu était retombée définitivement sur ce peuple et de se considérer en tant que personne comme les nouveaux élus en raison de notre supériorité, d'avoir cru que parce que le peuple juif avait crucifié son élu, qu'il fallait le maudire et le rejeter pour tous les temps. Permettez-moi de vous lire simplement une citation d'un spécialiste du christianisme. C'est un ancien professeur d'une grande université aux États-Unis, à Yale. Ce n'était pas du tout un juif, c'était un Hongrois, si je ne me trompe pas, Jaroslav Pelikan, qui dit ceci. On peut mettre aussi la prochaine diapositive. Y aurait-il eu cet antisémitisme? Y aurait-il eu autant de pogroms? Y aurait-il eu Auschwitz, qui est là derrière, si toutes les églises chrétiennes et si tous les foyers chrétiens avaient pris pour objet central de leur dévotion des images d'une Marie non seulement mère de Dieu et reine des cieux, mais aussi une jeune fille juive, une et nouvelle Myriam, et des images du Christ non seulement Pantocrator, mais Rabbi Yeshua bar Joseph, Rabbi Jésus de Nazareth. Les signes de la judaïté de Jésus sont omniprésents tout au long des quatre évangiles et passent justement par son rapport avec le temple. Comme on l'a mentionné au début, Jésus a été à multiples reprises en contact avec le temple de Jérusalem. Pour terminer cette prédication, je voudrais terminer justement par des textes, des évangiles dans Matthieu et dans Marc. Je voudrais qu'on puisse s'imbiber de ces textes aussi quand nous à la rencontre de la table du Seigneur. On va lire ces textes, les musiciens vont aussi venir et je ferai une conclusion de ce message et de ces trois messages. Donc Denise va nous lire dans Matthieu 24, dans Matthieu 14 et dans Matthieu 27, des textes où Jésus est en contact avec le temple de Jérusalem.
Matthieu 24, les versets 1 à 2. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et dans Marc 14, ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où se rassemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les spécialistes de la loi. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme et en 3 jours j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et dans Matthieu 27, ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. C'est dans le psaume 22. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes.
Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, les 2 chefs d'accusation pour condamner Jésus, c'était qu'il se disait qu'il était le Messie. Mais ce qui m'a frappé quand on a vu le spectacle de Marc l'expérience, c'était justement, c'est qu'il avait dit qu'il y aurait le temple qui va être détruit et qui va le remonter en 3 jours. Qu'il va détruire, en fait, que le temple sera détruit. Et il s'attaque ainsi au cœur de la pensée juive. Rappelez-vous donc, et c'était le but de ces messages, qu'il y a une continuité dans la révélation divine de Dieu, tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On va voir encore la prochaine diapositive. Je ne sais pas si vous voyez bien, tout en haut, c'est le mont Moria, Morija, avec Abraham et le sacrifice d'Isaac. Ensuite, on sait qu'il y a le tabernacle qui était la manifestation de Dieu dans le désert. Le tabernacle fut le modèle pour le premier temple, le temple de Salomon. Le premier temple a été détruit et il était reconstruit. Et ensuite, il a été rénové par Hérode, comme on peut voir. Ensuite, en 70, ce temple a été détruit. Et après des siècles, beaucoup de choses se sont passées sur ce lieu. Et cette histoire chronologique du temple s'inscrit aussi dans la révélation progressive de Dieu à l'humanité, et elle s'inscrit par la présence de Jésus, le Messie. Ce qui est certain également, c'est que Jésus ne répondit ni de près ni de loin au glorieux espoir juif qui voulait être débarrassé des Romains. Ce fut le contraire qui se produisit. Jésus ne fut reconnu que par une poignée de Juifs, mais fut accueilli par les nations païennes. Quand il parle de la destruction du temple, il parlait de son corps et de sa résurrection au troisième jour. À la mort et à la résurrection de Jésus, c'est la présence de Dieu qui est manifeste dans l'humanité entière. Vous avez remarqué aussi que quand Jésus meurt, le voile du temple se déchire. La présence de Dieu est dissipée. Et la présence de Dieu sera à un moment donné plus localisée à un endroit bien précis, ce qui est évidemment incroyable. Nous savons, nous, que Jésus est vraiment le Messie, que les prophètes l'avaient annoncé des centaines d'années avant sa venue, et que c'est une immense grâce pour nous de reconnaître que Jésus est vraiment le Messie, est véritablement le Fils de Dieu. Puis à la Pentecôte, donc il est mort, Jésus est ressuscité, et à la Pentecôte, on peut mettre la prochaine diapositive à la dernière, le Saint-Esprit a montré que le tombeau était vraiment vide, que la croix de Jésus avait tout accompli, et qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est rentré dans nos cœurs, dans nos vies. Alors, le temple de Jérusalem n'avait plus lieu d'exister. Le temple fut détruit en 70, mais la présence de Dieu s'est manifestée dans nos vies, puisque nous lisons dans Corinthiens, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu. » Est-ce que nous pouvons imaginer que cette présence de Dieu qui était dans le temple de Jérusalem, dans le lieu très saint où personne ne pouvait y entrer sinon il mourait, cette même présence de Dieu, exactement la même présence, elle est maintenant dans nos vies, parce que Jésus a tout porté nos péchés. Et cette présence par le Saint-Esprit est au milieu de nous, est avec nous, est dans nos vies. Quand j'y pense, je trouve ça extraordinaire. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était sur David, mais n'était jamais dans David. Grâce à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est dans nos vies. Rappelons-nous cela, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Accueillons-le encore et pour toujours. Béni soit le Dieu d'Israël et le Dieu de Jésus-Christ. Amen.